Nous sommes donc à moins de 2 semaines de Noël. Et comme chaque année, sûrement, nous entendrons et nous prononcerons certainement ces mots que sont Joyeux Noël. En France et ailleurs dans le monde, cette période de fête est synonyme de joie pour beaucoup, parce qu'elle est une occasion de réunir des personnes, et notamment autour d'une table bien garnie et bien décorée, mais aussi pour s'offrir des cadeaux. Pour d'autres, en revanche, Noël est synonyme d'un mauvais moment à passer, parce que cette période accentue la réalité de la solitude, ou rappelle peut-être de mauvais souvenirs. La perte d'un être cher à cette même période de l'année, le souvenir d'une famille qui n'a jamais célébré Noël, peut-être le souvenir d'une enfance difficile, ou que sais-je d'autre. La Bible nous raconte l'histoire de la naissance de Jésus. Et l'annonce de cette naissance a été faite à quelques bergers, dans une ambiance très lumineuse et très joyeuse. C'était la fête, et cette immense joie qui était là, lors de cette annonce, était liée au véritable sens de Noël. Je vous propose de lire ensemble le passage qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 2, et on va lire seulement les versets 8 à 14 de ce chapitre. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alors je ne sais pas comment vous ressentez ou comment vous imaginez cette scène. Mais il me semble que cette scène est un véritable faire-part de naissance vivant. On pourrait résumer le message de ce faire-part comme ceci. La naissance de Jésus est une bonne nouvelle et une source de joie parce que Jésus, c'est Dieu qui par amour pour nous s'est fait homme pour nous sauver et nous permettre d'être en paix avec lui. Et la joie qui prédomine dans cette scène avec cette chorale d'anges est à la hauteur de l'importance de l'événement, mais surtout, il me semble, de l'importance de l'identité de celui qui vient de naître. Jésus, le plus grand roi que ce monde ait connu, s'est abaissé dans la plus grande humilité pour venir nous sauver et rétablir notre relation avec Dieu. C'est un immense sujet de joie parce que pour nous sauver, Jésus, ce bébé dans cette mangeoire, vient accomplir ce que nous, les hommes, nous étions incapables d'accomplir. Et j'aimerais évoquer au moins deux de ces missions qui ont de quoi nous réjouir profondément, encore pour nous ce matin. La première de ces missions, c'est que Jésus est né pour vivre la vie que je ne pouvais pas vivre. Oui, Noël, c'est avant tout la célébration d'une vie diamétralement opposée à la nôtre. Rappelons-nous ceci. Et on l'a encore vu en plus dernièrement dans notre parcours dans Genèse. Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu et vivre en conséquence, une vie épanouie. Dans cette relation, Dieu, notre Créateur, nous aime et il voulait prendre soin de nous comme personne d'autre ne peut le faire. Il désirait que nous vivions pour lui. Il désirait être le centre de notre vie, celui que nous adorions et à qui nous obéissions, parce qu'il est bon et que tout ce qu'il veut pour nous est bon. Cette relation avec notre Créateur devait être exaltante et totalement suffisante. Malheureusement, dans le jardin d'Éden, l'homme a rapidement désobéi à Dieu et manifesté son désir de vivre indépendamment de lui. Alors comment être à nouveau en bonne relation avec Dieu si nous sommes incapables de lui obéir? La réponse à cette question se trouve dans cette mangeoire lors du premier Noël. Dieu a revêtu notre humanité en la personne de Jésus pour nous représenter et vivre dans l'obéissance parfaite à Dieu, son Père. Et quand on regarde la vie de Jésus, on ne peut être qu'émerveillé. Il a été tenté à 3 reprises et à chaque fois, il a résisté. Il a tenu bon en renvoyant le diable dans ses cordes. Même s'il était Dieu, c'est en tant qu'homme qu'il a été tenté. C'est en tant qu'homme qu'il est resté fidèle. Toute sa vie durant, il était animé par un seul désir, accomplir la volonté de Dieu son Père. Il était calé sur la même fréquence, constamment sur la même longueur d'onde. Il n'a jamais fait de mal, il n'a jamais prononcé de mauvaises paroles, il n'a jamais eu de mauvaises pensées. Il a été obéissant jusqu'à la fin de sa vie. Il a accompli toutes les exigences de la loi. Et il nous est dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, il faisait la joie de son Père. Pour être notre parfait représentant, Jésus devait réussir cette mission. Et cette mission a été un succès. Bien plus tard, l'apôtre Paul dira ceci. Comme par la désobéissance d'un seul, donc Adam, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, Jésus, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Ce matin, si nous croyons en Jésus, nous sommes déclarés justes en raison de son obéissance à lui. Dieu voit la vie parfaite de Jésus comme étant la nôtre. N'est-ce pas une bonne nouvelle réjouissante? Alors qu'est-ce que cela implique concrètement pour nous? Noël arrive en fin d'année. Avec la nouvelle année qui est bientôt là, qui est devant nous, bientôt, c'est souvent l'occasion de réaliser un petit peu un bilan. Comment est-ce que j'ai vécu cette année? Quels étaient les projets qui m'attendaient? Quels étaient les objectifs que je m'étais fixés? Quelles étaient peut-être les résolutions que j'avais prises en début d'année que je voulais absolument tenir? Quand je fais ce bilan et que j'évalue un petit peu tout cela, est-ce que c'est globalement positif? Est-ce que c'est plutôt globalement négatif? Alors la pandémie liée à ce Covid a certainement joué un rôle important dans ce bilan, et ce que je peux très certainement ressentir en cette fin d'année. Elle a bouleversé plus d'un de mes objectifs, et certainement plus d'une résolution. Mais quel bilan est-ce que je fais également à propos de ma relation avec le Seigneur? Il y a certainement beaucoup de belles choses vécues avec lui tout au long de cette année. Il y a toutes ces fois où je l'ai clairement vu agir de manière concrète, où je l'ai vu répondre à mes prières, où il m'a permis de tenir bon face à certaines tentations. Il y a eu sûrement aussi tous ces moments d'intimité avec Dieu. Il y a tout ce qui a contribué aussi à m'apprendre, à mieux le connaître, tout ce qui a permis que je puisse grandir dans ma foi, Et il y a aussi tout ce que Dieu a fait et dont je n'avais pas conscience. Comme c'est bon et comme c'est réconfortant de savoir que Dieu était là, présent dans ma vie et à mes côtés à chaque instant et qu'il veillait sur moi. Mais dans ce bilan, je repense peut-être aussi à tout ce que je n'ai pas fait. Tous ces échecs, tous ces loupés sur lesquels je ne pourrais plus jamais revenir. Il y a eu ces moments où j'ai manqué de foi. Il y a eu ces moments où j'ai désobéi et où j'ai très certainement craqué et cédé face à la tentation. Alors, soyons encouragés. Que cette période de Noël nous réjouisse profondément parce qu'on peut se rappeler que Dieu ne nous a pas sauvés en raison de notre vie, mais en raison de la vie de Jésus. Notre salut ne dépend pas de notre obéissance à Dieu, mais de l'obéissance de Jésus. Nous ne sommes pas sauvés sur la base de notre perfection, puisque de toute façon nous ne le sommes pas, mais de la perfection de Jésus, qui lui l'est de manière parfaite. Nous sommes libérés de chercher à obtenir quoi que ce soit, puisque de toute façon, nous n'obtiendrons rien de nous-mêmes. C'est un cadeau et un immense cadeau de la part de Dieu. Et ce cadeau nous encourage à vivre notre vie, toute notre vie, comme un grand merci que nous voulons lui adresser. La deuxième mission de Jésus, cet enfant dans cette crèche qui me réjouit, c'est que Jésus est né pour subir la condamnation que je méritais de subir. Désobéir à Dieu est quelque chose de grave qui devrait être sanctionné par Dieu, qui lui est complètement pur, complètement parfait, sans défaut. Et cette sanction, c'est la mort, une séparation totale et définitive avec Dieu. Alors que Dieu nous dit dans sa parole que nous sommes tous pécheurs et tous destinés à subir sa colère à cause de notre péché, comment faire pour être en relation avec Dieu? Quand je regarde à ma vie, je suis bien imparfait et loin d'être sans défaut. Il y a une incompatibilité entre moi et Dieu, entre sa perfection et mon imperfection. C'est un peu comme cette chanson qui parle de ce petit poisson et ce petit oiseau qui ne peuvent vivre une amitié parce que tout les oppose. L'un vit dans l'eau et ne pourrait vivre dans l'air, et pour l'autre, c'est l'inverse. Et pour que nous soyons épargnés, il fallait que quelqu'un d'autre prenne la punition à notre place. Pour cela aussi, il nous fallait, à nous les hommes, un représentant. Et là encore, pour nous représenter, cette personne devait être un humain qui n'ait jamais péché lui-même, sinon il aurait subi les conséquences de ses propres péchés. Il devait être humain parce que Dieu voulait nous sauver, nous, les êtres humains. 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2 nous dit ceci. « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » La solution à cette relation impossible se trouve à nouveau dans cette mangeoire à Noël. Cette solution vient de Dieu lui-même. Ce qui nous était impossible, Dieu l'a rendu possible. Jésus-Christ l'a fait. Jésus est venu sur cette terre pour s'offrir volontairement quelques années plus tard sur une croix et mourir à notre place. 3 jours après, Dieu son Père le ramènera à la vie, ce qui atteste que son sacrifice était valable. Il a été approuvé par Dieu. Il était parfaitement qualifié pour nous représenter. À nouveau, si nous croyons cela, le regard de Dieu sur nous change et par là même la relation que nous avons avec Dieu. Dieu met à notre crédit la vie parfaite que Jésus a menée et il nous épargne la mort que nous méritions parce que Jésus a été condamné à notre place. Alors pour résumer un petit peu tout ça, j'aimerais vous montrer deux images et je vous invite à ouvrir vos micros pour participer. Est-ce que vous savez quel est leur point commun? Est-ce que quelqu'un se lance et aurait une idée sur le point commun entre ces deux images? Alors, c'est Daniel, il sert à explorer. Oui, tout à fait, on a un élément de la réponse. C'est en bonne voie. D'autres choses? Ouais, c'est ça. Merci, merci Daniel, merci Sheila. C'est exact, ce sont deux engins qui permettent à l'homme d'accéder à des endroits où il lui est naturellement impossible d'accéder par lui-même. C'est impossible de se rendre dans l'espace ou à de telles profondeurs sous-marines de nous-mêmes sans mourir. En fait, on pourrait dire que ces deux engins sont des moyens intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils offrent la possibilité à l'homme de transiter d'un environnement à un autre et de lui permettre de le rendre possible, sans quoi ce serait simplement impossible. Voilà le vrai sens de Noël. Jésus, parfaitement homme et parfaitement Dieu, vient faire l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Il vient rendre la relation à nouveau possible. Il vient rétablir le pont qui était brisé entre nous et Dieu. Est-ce que vous le croyez? En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ, Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. Jésus a aussi dit, quand il a grandi un petit peu plus tard dans sa vie, il a dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Alors j'aimerais terminer ce matin en vous racontant une histoire de Noël. Mais pour être vraiment dans l'ambiance, il faudrait vous imaginer qu'il neige dehors. Donc c'est plutôt mal barré parce qu'on a un grand soleil ce matin et on est loin de température, même s'il fait quand même froid, mais on est loin d'une température qui nous permette de voir la neige. Il faudrait donc vous imaginer qu'il neige dehors, que vous soyez assis avec une bonne tasse de thé dans les mains. Et ça, c'est déjà un petit peu plus réalisable. Et pourquoi pas... Ah, il y a un truc qui... C'est pas grave. Et pourquoi pas près d'un petit feu de cheminée dont on se laisserait bercer par le crépitement. Je commence cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui ne croyait pas en Dieu et qui ne se gênait pas d'ailleurs pour faire savoir à la ronde ce qu'il pensait de la religion et des fêtes religieuses telles que Noël. Toutefois, sa femme était croyante et elle élevait leurs enfants dans la foi en Dieu et en Jésus, malgré les propos désobligeants de son mari. Or, c'était la veille de Noël, et elle se préparait à emmener les enfants au culte de Noël à la paroisse de leur village. Elle lui demanda de les accompagner, mais il refusa. « Cette histoire n'a pas de sens !» s'exclama-t-il. « Pourquoi est-ce que Dieu s'abaisserait pour venir sur terre sous une forme humaine ?» C'est ridicule! Sa femme et ses enfants s'en allèrent donc, le laissant seul à la maison. Un peu plus tard, le vent se leva, provoquant une tempête de neige. Notre homme regarda par la fenêtre, mais la tempête empêchait toute visibilité. Il s'assit en face du feu de la cheminée, histoire de se détendre. Au bout de quelques minutes, il entendit un bruit sourd. Quelque chose était venu cogner contre la vitre. Puis à nouveau, le même bruit sourd, Il regarda alors dehors, mais on n'y voyait pas à 2 mètres. Profitant d'une accalmie, il se risqua à l'extérieur pour voir ce qui avait bien pu frapper sa fenêtre. Dans le champ à proximité de sa maison, il aperçut un vol d'oies sauvages. Apparemment, elles migraient vers le sud pour échapper à l'hiver, mais elles avaient été bloquées par la tempête. Elles étaient perdues, prisonnières de sa ferme, sans nourriture, sans abri. Elles battaient des ailes et volaient en cercle. À basse altitude, aveuglées et complètement désorientées. C'est ainsi que deux d'entre elles, semble-t-il, s'étaient cognées à sa fenêtre. L'homme, pris pitié pour ces pauvres oies, décida de les aider. La grange, se dit-il, serait pour elles un bon refuge. Il y fait bon et elles seront à l'abri. Elles pourront y passer la nuit en attendant la fin de cette tempête. Alors il se dirigea vers la grange et en ouvrit toutes grandes les portes. Il attendit là en espérant que les oies remarqueraient que la grange était ouverte et qu'elles iraient s'y réfugier. Mais elles continuaient de battre des ailes, affolées, sans prêter attention à la grange, ni comprendre quel était leur seul salut. Notre homme s'efforça de les y attirer, mais il ne parvient pas. Il ne parvint qu'à les effaroucher davantage et à les éloigner. Il rentra chez lui et ressortit avec du pain. Il en fit des miettes qu'il utilisa pour tracer un chemin vers la grange, mais elle ne comprenait toujours pas. L'aventure commençait à le contrarier. Il se plaça derrière elle et il entreprit de les chasser en direction de la grange, mais c'était à nouveau peine perdue. Encore plus effrayée, elle se dispersait dans toutes les directions, excepté la bonne. Bref, il ne parvint pas à les faire entrer dans la grange, où elles auraient pu se réchauffer et trouver un abri. « Ha ! Pourquoi ne me suivent-elles pas ? » s'écria-t-il frustré. « Ne voient-elles donc pas que c'est le seul endroit où elles pourront survivre à la tempête ?» Il réfléchit un instant et en vint à la conclusion que jamais elles ne suivraient un humain. « Si seulement j'étais une oie, pensa-t-il tout haut, je pourrais les sauver. » Tout à coup, une idée lui traversa l'esprit. Il entra dans la grange et se saisit d'une oie de sa basse-cour, puis, la portant dans ses bras, il contourna les oies sauvages et il alla la placer derrière elle. Une fois libérée, celle-ci traversa la volée d'oiseaux et gagna directement la grange. Alors, une à une, les oies sauvages la suivirent pour s'y réfugier. Notre ami se tenait là en silence, médusé. Et les paroles qu'il venait de prononcer lui revinrent à l'esprit. « Si seulement j'étais une oie, je pourrais les sauver. » Puis il se rappela ce qu'il avait dit à sa femme quelques heures plus tôt. « Pourquoi Dieu voudrait-il devenir comme nous ? C'est ridicule !» Soudain, il comprit. C'était précisément ce que Dieu avait fait. Nous étions comme ces oies sauvages, aveugles, désorientées, égarées, en danger de mort. Alors Dieu a permis à son Fils de devenir comme nous, pour qu'il puisse nous montrer le chemin et nous sauver. C'était ça le sens de Noël. Tandis qu'au dehors, les vents et la tempête se calmaient, il méditait cette pensée merveilleuse. Et cette pensée le remplissait d'une grande sérénité. Il comprit enfin ce que Noël voulait dire, pourquoi le Christ était venu. C'en était fini de ces années de doute et d'incroyance. Elle s'était évanouie comme la tempête. Il se laissa tomber à genoux dans la neige et fit là sa première prière. Merci mon Dieu d'être venu sous une forme humaine pour me sauver de la tempête. Cette histoire est terminée et c'est donc avec beaucoup de joie et de reconnaissance en pensant à ce véritable sens de Noël, que du plus profond de mon cœur, je vous souhaite à chacun un très joyeux Noël, comblé par l'amour de notre Sauveur.